Europe 1, 14h-15h, clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et aujourd'hui, dans notre récit, on va s'intéresser aux dialoguistes, avec cette double actualité. D'abord, la disparition de Jean-Pierre Bacri, dialoguiste hors pair.
Ah, quel mépris! 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Il découvre les embouteillages. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire.
Et puis, deuxième actualité, la sortie d'un coffret DVD 100 ans de Michel Audiard chez Gaumont. Alors, 35 ans après sa mort, pourquoi les dialogues d'Audiard nous fascinent-ils toujours autant?
Ça court les rues, les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon.
Et qu'est-ce qui fait qu'on s'en souvient encore de ces dialogues? Qu'est-ce que les dialogues d'Audiard racontaient de notre société? Et pourquoi sont-ils plus que jamais d'actualité? On répondra à ces questions et on recevra Thomas Bideguin, scénariste dialoguiste qui a notamment beaucoup travaillé avec Jacques Audiard. Il nous racontera son métier. 14h30, votre rendez-vous, les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Charlotte Gainsbourg qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors justement, quel est son premier souvenir de cinéma?
Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage?
C'est exact.
Ce requin, il avale tout ce qu'il voit.
Et oui, les dents de la mer que sa mère, figurez-vous, l'avait emmené voir. Elle avait 4 ans. La suite de ce questionnaire de Charlotte Gainsbourg, c'est donc à 14h30. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques. On débattra des films qui sortent sur vos plateformes ou en DVD-VOD. Avec au programme aujourd'hui Coco, le Pixar qui débarque sur Disney+. On parlera aussi du Tigre Blanc sur Netflix, de Paradise Hills sur Prime Video et d'Underwater sur MyCanal avec notamment Vincent Cassel et Kristen Stewart. Voilà pour le programme de Clap, votre émission cinéma. Et tout de suite, donc, place à notre récit consacré au dialogue signé Jacques Audiard. Pourquoi sont-ils toujours autant d'actualité?
Europe 1. Le récit.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Pour comprendre les dialogues signés Michel Audiard, il faut d'abord se replonger dans sa biographie et voir d'où il vient. Michel a grandi dans les années 20, dans le 14e arrondissement de Paris, quartier alors très populaire. C'est là que chaque jour, autour de lui, il entend ses répliques pleines de gouailles qui vont l'inspirer des années plus tard. C'est son parrain qui l'élève et le jeune Audiard n'est pas très intéressé par les études, même s'il finira par passer un CAP de soudure. Après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il ne participe pas, Audiard vivote, il enchaîne les petits boulots, livreur de journaux notamment, et même critique de cinéma. Mais ce qu'il aime, lui, c'est parler, discuter avec tous ceux qui peuplent son quartier populaire. Commerçants, chauffeurs de taxi, concierges, ces gens du peuple le fascinent. Il ne le sait pas encore, mais Audiard est déjà en train de travailler à ses premiers dialogues, et puis son inspiration notamment dans les bistrots. Écoutez-le sur Europe 1.
J'y vais le plus souvent possible parce que je m'y détends, je m'y amuse. Si le bistrot continue dans l'évolution actuelle, c'est-à-dire vers le plastique, le néon, le jukebox et la télé, je crois qu'il est condamné à mort. Il faudrait revenir aux zincs d'autrefois, aux petits bistrots intimes.
En parallèle, Audiard s'intéresse à la grande culture. Il admire Rimbaud, Prévert, Céline aussi. L'un des seuls regrets qu'on lui connaisse est de ne pas avoir eu le temps d'adapter au cinéma « Voyage au bout de la nuit ». Audiard disait « C'est en écoutant Prévert que je me suis dit, tiens, il y a un langage cinématographique. S'il n'y avait pas eu Prévert, je n'aurais certainement jamais écrit pour le cinéma. » Mais c'est en 1949 qu'Audiard glisse son premier pied dans le 7e art. Le réalisateur André Unebelle, qui réalisera plus tard notamment Fantomas, lui commande le scénario d'un film policier, Mission à Tanger, avec notamment au casting Louis de Funès.
Mais permettez-vous esta danse?
Oh, ce sera avec plaisir, général. Mais je n'ai pas encore dîné, excusez-moi. Tout à l'heure, pour un tango de préférence.
Sus deseos son órdenes.
Quand on voit la gueule de certains militaires, ça ne donne pas envie de faire le zouave.
Que c'est un tango?
Después de comer, yo junto. D'ailleurs, ce n'est pas un tango.
Excusez-moi.
Le chef de
l'orchestre qui ne joue plus de tango. Jusqu'à la fin du mois.
Mais la carrière de Michel Audiard n'aurait sans doute pas été la même s'il n'avait pas rencontré quelques années plus tard un certain Jean Gabin. Qui incarne mieux que lui le titi parisien, gouailleur? Première collaboration entre les deux hommes, Gazoïle. Au début des années 50, Jean Gabin donne la réplique à Jeanne Moreau.
Dans le temps, les femmes restaient à la maison. Elles faisaient la cuisine, elles faisaient le ménage, elles repassaient, elles faisaient les cuirs. Mais aujourd'hui, elles votent et elles lisent la série noire. Alors, résultat.
Résultat?
Eh ben, résultat, elles sont filées des pommes pas mûres ou des pommes pourries. Et on veut pas des pommes.
Eh ben, laisse-les. Quand je pense que j'ai pris un amant au lieu d'un mari pour me distraire, eh ben, on peut dire que le péché ne paye pas.
Mais vous n'avez pas toujours dit ça, dites donc.
Jean Gabin jouera dans 17 films signés Audiard. Dans le coffret édité par Gaumont, on retrouve notamment Un Saint-Jean-Hiver, sorti en 1962.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
On peut aussi parler du Pacha, l'histoire du commissaire Joss, qui, pour venger un ami mort dans un hold-up, met deux bandes de malfrats sur la même affaire. Objectif, qu'ils s'entretuent.
À quoi tu penses?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Alors c'est vrai, il y a un côté un peu jouissif pour le public à entendre ces phrases crues, directes, et ça, Audiard l'a bien compris, et ses punchlines assumées, ce sera sa marque de fabrique. Dans ses films, les hommes jouent souvent des caricatures d'hommes, et les femmes des caricatures de femmes, ce qui lui vaudra d'ailleurs les foudres de la nouvelle vague qui méprise ce cinéma à la papa. Lui s'en fiche et préfère laisser Truffaut ou Godard à leurs amourettes à plusieurs, c'est pas son truc. Il en parlait d'ailleurs au micro d'Europe 1.
Je m'aperçois qu'avec l'âge, je deviens méchant. Et ça, je suis très content parce que jusqu'ici, j'étais peut-être un petit peu trop gentil dans mes sujets. Alors maintenant, je commence à camper des personnages plus grinçants. En général, je fais des personnages sympathiques avec des petits bons hommes. C'est des petits ouvriers, des petits prolos, des gens de la rue. En général, les gens antipathiques sont des gens importants. Ce sont des commissaires de police, des agents immobiliers, des gens qui ont pignon sur rue. Parce que ceux-là, je crois qu'on peut tout de même les... Je ne veux pas dire les insulter, mais les tourner en ridicule. Quand je fais des films purement comiques, on me dit qu'ils sont... Des fois, on me dit que c'est un film poujadiste, une autre fois, c'est un film fasciste. Alors, si je me mets à aborder les problèmes sérieux, ça va devenir très embêtant.
Notez d'ailleurs que lorsque la nouvelle vague commence à s'essouffler à la fin des années 60, le style Michel Audiard, lui, a le vent en poupe, même dans les années 70. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'Audiard sans parler de son plus grand succès, Les Tontons Flingueurs, signé Georges Lautner, avec notamment Lino Ventura, Claude Rich et Bernard Blier. Un film dont les répliques sont restées cultes 50 ans après. D'ailleurs, des centaines de sites internet s'amusent à les répertorier.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Fumière.
Écoute, on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns. Comme on dit de nos jours.
Mais est-ce que vous avez noté que toutes ces punchlines, on les a retenues aussi parce qu'elles fonctionnent toujours aujourd'hui? Audiard était déjà très moderne dans son époque. Alors on est sans doute un peu nostalgique aussi de ces hommes qui picolent, fument, s'engueulent avec un langage fleuri. Attention cependant, il ne faut pas réduire Audiard à son sens de la formule, car à travers ses films, il parle aussi de politique et de questions toujours d'actualité. Dans Le Président, par exemple, d'Henri Verneuil, Audiard dépeint les dirigeants comme étant des hommes complètement déconnectés.
On est gouverné par les lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne seraient seulement pas foutus de faire pousser des rallyes.
Aspect que l'on retrouve d'ailleurs dans Les Tontons Flingueurs.
Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait
aux tables rondes et à la détente. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Dans le film Les Grandes Familles, c'est le patronat qui en prend pour son grade, notamment à travers cette scène jouée par Jean Gabin et Pierre Brasseur.
Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Hein?
Mais alors, comment Audiard trouve-t-il son inspiration, ce sens de la formule? Est-ce réfléchi, écrit? Non, si on veut bien le croire en tout cas, écoutez ce qu'il en disait au micro d'Europe 1.
Ah oui, parce que ça, il y a des gens qui cherchent et qui trouvent. Moi, si je cherche, je suis sûr de ne pas trouver. Alors ça, faut que je trouve tout de suite ou je trouve jamais.
Alors, ça, il y a des jours où ça fuse et il y a d'autres jours où il n'y a rien à faire.
Hein. Ah oui, il y a des jours, la feuille de papier, alors il n'y a rien à faire, ça ne vient pas. Mais d'ailleurs, j'insiste plus parce que je commence tout de même à me connaître depuis le temps que je me fréquente. Alors j'arrête, quoi. Je me mets à mon boulot à 8h, 8h30 le matin. Et puis, si c'est pas venu, ben j'arrête les frais. Tandis que si ça vient bien, par contre, je continue.
Une chose est sûre, ces dialogues de Michel Audiard ont marqué toute une génération de scénaristes et dialoguistes. Michel Audiard disait d'ailleurs « Dialoguiste, c'est le seul boulot du cinéma qui ne s'apprenne pas ». Alors justement, qu'en est-il aujourd'hui du métier de dialoguiste? Est-ce qu'il n'est pas un peu délaissé au profit du scénariste? Et puis, comment écrire des dialogues dans l'air du temps? On posera toutes ces questions dans un tout petit instant à notre invité Thomas Bideguin, qui a beaucoup travaillé avec Jacques Audiard, le fils de Michel. Mais d'abord, j'avais envie qu'on écoute la bande originale du film « Ne nous fâchons pas », signé Georges Lautner, scénario de Michel Audiard notamment. La musique est de Bernard Gérard.
14h-15h sur Europe 1, clap. Mathieu Charrier.
La bande originale du film « Ne nous fâchons pas » signé Bernard Gérard dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Dans un tout petit instant, j'accueille le scénariste et réalisateur Thomas Bideguin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'aujourd'hui le travail de dialoguiste. Restez avec nous.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on continue de parler aujourd'hui dans Clap de Michel Audiard et plus largement de son métier de dialoguiste. Pour poursuivre notre réflexion sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Bideguin. Bonjour.
Bonjour.
Scénariste, vous travaillez régulièrement avec Jacques Audiard, notamment sur Dipane de Rouillé d'Os, par exemple. Vous êtes également réalisateur, je pense à votre film Les Cowboys. Alors, je le disais tout à l'heure, Michel Audiard déclarait « Dialoguiste, c'est le seul boulot du cinéma qui ne s'apprenne pas ». Est-ce que vous confirmez ?
Je suis assez d'accord avec ça, même si je pense que ça a beaucoup changé depuis l'époque de Michel Audiard. C'est-à-dire que c'est plus difficile peut-être à cause des comédiens. On n'a pas le même genre de comédiens, on n'a pas accès à des Gabin, des Ventura, parce que vous voyez, les dialogues c'est comme des costumes, il faut pouvoir les porter.
Quand vous dites que ça a changé à cause des comédiens, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de leur faire dire certaines choses ou...
Oui, c'est moins pittoresque, vous voyez. Puis c'est les personnalités peut-être moins fortes quand vous avez un Gabin. Vous savez, Michel Audiard, il écrit pour Gabin à la deuxième partie de la vie de Gabin. Ils se rencontrent après-guerre. Et donc, c'est un Gabin qui est déjà très affirmé, vous voyez. C'est la même chose pour Blier ou Gras. Quand Michel Audiard écrit pour eux, c'est des personnages très affirmés. Et donc, ils vont avoir toutes sortes de métiers dans les films, toutes sortes de personnalités, mais à la fin, ça sera toujours Blier, Ventura et Gabin.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des dialoguistes? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un métier qui intervient sur les scénarios, spécifiquement sur les dialogues, ou est-ce que c'est, dans la majorité des cas, dévolu aux scénaristes?
Non, dans la grande majorité des cas, c'est dévolu aux scénaristes. Mais ça arrive de temps en temps, parce qu'il y a quand même un sens de la formule, on aime bien ça, les répliques dans les films, quand même. Donc de temps en temps, moi, ça m'est arrivé de travailler sur les dialogues d'un film, par exemple. On ne pouvait pas toucher à la structure, mais il fallait résumer, voilà.
Lequel, par exemple?
C'était un film sur les bateaux avec Cluzet.
Ah, en solitaire.
En solitaire, exactement.
Ah, vous aviez...
Il y a peu de dialogue, hein, il voyage en solitaire. Mais je me souviens qu'on m'a fait intervenir là-dessus pour effectivement donner un peu plus de chair au personnage.
C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous recevez le scénario et on vous dit, faut prendre...
Le scénario, on me dit, voilà, on ne touche pas à la structure. On est content de la structure. Par contre, les personnages manquent un peu de chair, manquent un peu de personnalité. Tout ça manque un peu de vie. Est-ce qu'on peut rajouter, simplifier, rendre les choses un peu plus fortes, voyez.
Et vous, comment vous travaillez dans ces cas-là? Parce que sur ce film-là, par exemple, il faut connaître un petit peu l'univers de la voile.
Il faut connaître un peu l'univers de la voile, mais c'est surtout quand vous faire ça. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les personnages. Donc voilà, il faut surtout saisir la personnalité, trouver quelque chose de saillant chez un personnage, voyez.
Parce qu'on a l'impression que c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup peut-être les histoires ou l'arc narratif, la personnalité du personnage, mais que les dialogues, ça vient un petit peu en dernier. Finalement, on trouvera quoi leur faire dire après. C'est le cas ou pas?
Non, je pense que ça vient ensemble. Mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, souvent, les dialogues, et je vois, moi, je travaille comme ça aussi, les dialogues, on essaye de les déshabiller. C'est-à-dire de faire dire aux gens des choses simples. Il faut que ça soit... Il y a quelque chose de plus réaliste dans les dialogues. Vous voyez, quand vous voyez les tontons flingueurs, c'est très marrant, mais c'est pas du tout réaliste. Quand il y a un film de voyous, on voit plus vraiment les tontons flingueurs. Donc les gars vont parler. Mais vous voyez, les films, par exemple, Le Gang des Lyonnais ou des trucs comme ça, les gars parlent. Alors on leur met dans la bouche tout un vocabulaire comme ça. Alors c'est un peu folklore quand même.
Vous dites qu'il faut que ce soit peut-être plus réaliste aujourd'hui, pour que ça fonctionne et que ce soit crédible.
Exactement, plus réaliste, c'est ce que je veux dire par on déshabille les dialogues, c'est-à-dire qu'on cherche moins des mots d'auteur. Vous voyez, les mots d'auteur, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ces dialogues-là qui sont difficiles à porter. Et, c'est un costume, il faut vraiment il faut pouvoir les porter, il faut une histoire qui puisse les porter. Donc généralement, c'est des histoires qui vont être imposantes et des personnages qui vont être imposants. Il faut au moins ça pour porter des mots comme ceux d'Audiard, par exemple.
Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un appauvrissement des dialogues, un peu moins peut-être de poésie?
Aujourd'hui, je pense que les films tiennent sur autre chose. Vous voyez, les séries et les choses comme ça, ça tient sur l'histoire, essentiellement, mais pas vraiment sur les dialogues. Le cinéma d'Audiard, pour lequel j'ai un grand respect, mais ce n'est pas un cinéma qui produit des images, vous voyez, par exemple. Qui va produire des dialogues, il va produire des personnages, il va produire des rôles pour des grands comédiens, mais pas vraiment des images. J'ai l'impression que le cinéma, maintenant, s'appuie plus sur des images qu'il ne le faisait à l'époque.
Si j'élargis un peu, vous qui êtes un scénariste connu et reconnu, on dit souvent que le scénariste est un peu la dernière roue du carrosse, notamment en France, contrairement aux États-Unis, par exemple. Que c'est celui qui est un peu le moins bien traité, qui est le moins bien payé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec les Américains?
Il y a une vraie différence avec les Américains, oui, ça c'est sûr. Il y a une vieille blague qui dit, vous savez à quoi on reconnaît une actrice belge? C'est celle qui sort avec le scénariste. Voilà. C'est toujours un peu vrai quand même.
Et ça change, ça évolue?
Ça évolue, je pense que le poids de la télé fait changer les choses. L'idée des writer's room, vous voyez, pour les séries, l'idée des showrunners, alors, vous voyez, c'est que des mots anglais, hein, c'est pas étonnant. Et donc voilà, toutes ces idées-là, elles font un peu évoluer la conception, l'idée qu'on a du scénariste.
Si j'en reviens à Michel Audiard, comment vous expliquez que ces dialogues sont toujours aussi populaires aujourd'hui que même des jeunes connaissent des répliques des Tontons Flingueurs ou d'autres films?
Parce qu'il a créé une mythologie, quelque chose qui n'existait pas avant lui. Si vous regardez le cinéma d'avant-guerre, vous voyez, vous allez voir, je ne sais pas quoi, Michel Simon, il y a déjà des répliques, il y a des grands scénaristes déjà avant-guerre. Mais lui, il va créer après-guerre quelque chose qui va déjà être empreint de nostalgie, déjà à l'époque. Vous voyez, quand vous voyez le président, quand vous voyez les Maigret, ou même les Tontons Flingueurs, c'est déjà des gars qui sont dans une époque, ça raconte ça, les Tontons Flingueurs. C'est des vieux de la vieille, déjà.
Ça vient comment, un bon dialogue, quand on écrit?
Souvent, ça, je pense que chacun a ses recettes. Moi, je sais que je les joue. Alors, je vois mes enfants qui traînent autour de mon bureau et ça, ils m'entendent trouver les répliques. Mais c'est pas là, c'est de la réplique. Il faut vraiment, je pense qu'il faut être vraiment dans le personnage pour pour être à ce moment-là. Effectivement, ça vient souvent tard. C'est-à-dire qu'on va masser une scène, on va trouver une situation et puis à partir à un moment, on va réussir à la résumer en deux mots. Mais voilà, ça demande du travail, ça.
Audiard, c'était aussi cette gouaille finalement dans les dialogues. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un héritage de ça, une espèce de langage populaire? On a l'impression que ça a disparu aussi dans le pays. Alors peut-être que c'est le langage des banlieues, peut-être.
Il y a ça, oui, il y a un langage des banlieues, ça c'est sûr, et qui donne une couleur. On voit ça beaucoup dans les films de gangsters, dans Bac Nord qui va bientôt sortir dès que c'est permis. Voilà, c'est des trucs où effectivement, ou dans les films marseillais, il y a ça, vous voyez. Il faut qu'il y ait un terroir. Il faut que ça pousse quelque part le dialogue. C'est vrai que quand on a des histoires avec des gens qui sont au café et qui fument des cigarettes, c'est souvent plus difficile.
Eh bien, merci beaucoup Thomas Bideguin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap.
Ah ben, je vous en prie, tout plaisir est pour moi.
Et puis c'est l'occasion, ce confinement, de revoir des films. Alors pourquoi pas aller voir votre film comme réalisateur, Les Cowboys.
Ah ben voyez, ah ben, effectivement il est d'actualité.
Oui.
Non, et revoyez les films de Audiard, père et fils.
Ouais, les deux, c'est rarement décevant.
Voilà.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap en tout cas.
Non, je vous en prie, merci à vous.
Et nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'émission, le temps d'accueillir Charlotte Gainsbourg qui va répondre à notre questionnaire Les films de ma vie, et vous verrez notamment tous les films qui ont marqué sa vie. À tout de suite. Europe 1.